Au nom du capital. La nationalisation de l'Indonésie par la couronne hollandaise, 1800, et de l'Inde par la couronne britannique, 1858, ne mit guère fin aux embrassades du capitalisme et de l'Empire. Bien au contraire, le lien ne fit que se renforcer au cours du XIXe siècle. Les compagnies par action n'avaient plus besoin de se tailler des colonies privées et de les gouverner. C'était leurs dirigeants et gros actionnaires qui tiraient désormais les ficelles du pouvoir à Londres, Amsterdam et Paris. Ils pouvaient compter sur l'État pour veiller à leurs intérêts. Les gouvernements occidentaux étaient en passe de se transformer en syndicats de capitalistes, raillait Marx avec d'autres. La première guerre de l'opium, opposant la Grande-Bretagne à la Chine, 1840-1842, est l'exemple le plus notoire de la façon dont les États agissaient sur ordre du grand capital. Dans la première moitié du XIXe siècle, la British East India Company et divers hommes d'affaires firent fortune en exportant de la drogue, notamment de l'opium, vers la Chine. Des millions de Chinois devinrent opiomanes, ce qui ne manqua pas d'affaiblir le pays tant socialement qu'économiquement. À la fin des années 1830, le gouvernement chinois décida d'interdire le trafic de drogue. Mais les marchands britanniques firent comme si de rien n'était. Les autorités chinoises se mirent à confisquer et à détruire les cargaisons de drogue. Les cartels de la drogue étaient très liés à Westminster et à Downing Street. Beaucoup de parlementaires et de ministres avaient des actions dans les compagnies vendant de la drogue, et ils pressèrent donc le gouvernement d'intervenir. En 1840, la Grande-Bretagne déclara dûment la guerre à la Chine au nom du libre-échange. Ce fut une promenade de santé. Trop sur deux, les Chinois n'étaient pas de taille à affronter les nouvelles armes miracles de la Grande-Bretagne : vapeur, artillerie lourde, fusées et fusils à tir rapide. Suivit un traité de paix par lequel la Chine accepta de ne pas restreindre les activités des marchands de drogue et de les indemniser des dommages infligés par sa police. Les Britanniques exigèrent aussi, et reçurent, le contrôle de Hong Kong, qu'ils transformèrent en base du trafic de drogue. Hong Kong resta jusqu'en 1997 entre les mains des Britanniques. À la fin du XIXe siècle, la Chine comptait autour de 40 millions d'opiomanes, soit un dixième de sa population. L'Égypte apprit aussi à respecter le bras long du capitalisme britannique. Au XIXe siècle, des investisseurs français et britanniques prêtèrent des sommes considérables aux souverains égyptiens pour financer d'abord le canal de Suez, puis des entreprises beaucoup moins heureuses. La dette égyptienne enfla, et les créanciers européens s'immiscèrent de plus en plus dans les affaires égyptiennes. En 1881, les nationalistes égyptiens en eurent assez et se rebellèrent, décrétant l'abrogation unilatérale de toute la dette étrangère. Cela ne devait pas amuser la reine Victoria qui, un an plus tard, dépêcha son armée et sa flotte vers le Nil. L'Égypte resta un protectorat britannique jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ces guerres sont loin d'être les seules qui aient été livrées dans l'intérêt des investisseurs. En vérité, la guerre elle-même pouvait devenir une marchandise au même titre que l'opium. En 1821, les Grecs se rebellèrent contre l'Empire ottoman. Le soulèvement suscita une grande sympathie dans les cercles libéraux et romantiques de Grande-Bretagne. Le poète Lord Byron alla même en Grèce se battre aux côtés des insurgés. Mais les financiers londoniens perçurent aussi une opportunité. Ils proposèrent aux chefs rebelles d'émettre à la Bourse de Londres des obligations négociables, rébellion grecque. Les Grecs devaient promettre de les rembourser avec des intérêts s'ils arrachaient leur indépendance. Les investisseurs privés en achetèrent pour réaliser des profits ou par sympathie pour la cause grecque, voire pour les deux raisons à la fois. Le cours des obligations oscilla à la Bourse de Londres au gré des victoires et des défaites sur les champs de bataille de l'Hellade. Les Turcs prirent progressivement le dessus. Devant l'imminence de la défaite des rebelles, les détenteurs d'obligations risquaient de perdre leurs pantalons. Leur intérêt se confondant avec l'intérêt national, les Britanniques organisèrent une flotte internationale qui, en 1827, coula la principale flottille ottomane dans la bataille de Navarin. Après des siècles d'assujettissement, la Grèce était enfin libre. Mais cette liberté s'accompagnait d'une dette immense que le nouveau pays n'avait aucun moyen de rembourser. L'économie grecque fut hypothéquée des décennies durant au profit des créanciers britanniques. Cette étreinte du capital et de la politique eut des conséquences de grande portée pour le marché du crédit. Dans une économie, le montant du crédit n'est pas uniquement déterminé par des facteurs comme la découverte d'un nouveau gisement de pétrole ou l'invention d'une nouvelle machine. Il peut l'être aussi par des événements politiques tels que des changements de régime ou une politique étrangère plus ambitieuse. Après la bataille de Navarin, les capitalistes britanniques furent plus disposés à placer leur argent dans des opérations risquées outre-mer. Ils avaient bien vu que, si un débiteur étranger refusait de rembourser, l'armée de Sa Majesté irait récupérer leur argent. C'est pourquoi, de nos jours, la réputation de solvabilité d'un pays importe bien plus pour sa prospérité économique que ses ressources naturelles. Cette réputation de solvabilité indique la probabilité qu'un pays rembourse ses dettes. Outre des données purement économiques, elle tient compte de facteurs politiques, sociaux et même culturels. Un pays riche en pétrole, mais affligé d'un gouvernement despotique, d'un état de guerre endémique et d'un système judiciaire corrompu, aura une mauvaise notation de crédit. De ce fait, probablement restera-t-il relativement pauvre, puisqu'il ne sera pas capable de lever les capitaux nécessaires pour tirer parti de sa richesse pétrolière. Un pays dépourvu de ressources naturelles, mais qui jouit de la paix, d'un système judiciaire équitable et d'un gouvernement libre, a toute chance d'être bien noté. À ce titre, il n'aura sans doute pas de mal à trouver suffisamment de capitaux bon marché pour financer un bon système éducatif et encourager une industrie high-tech florissante. Le culte du marché. Le capital et la politique s'influencent mutuellement à un point tel que leurs relations sont l'objet d'un vif débat entre économistes, responsables politiques et grand public. Les fervents capitalistes ont tendance à considérer que le capital devrait être libre d'influencer la politique, mais qu'il ne faut pas laisser la politique influencer le capital. Ils soutiennent que lorsque l'État interfère avec le marché, les intérêts politiques se soldent par des investissements malencontreux et donc une croissance léthargique. Par exemple, un gouvernement peut imposer lourdement les industriels et utiliser l'argent pour verser de généreuses indemnités de chômage qui sont populaires auprès des électeurs. De l'avis de nombreux hommes d'affaires, il serait bien préférable que le gouvernement ne touche pas à leur argent, dont il se servirait, assure-t-il, pour ouvrir de nouvelles usines et embaucher les chômeurs. De ce point de vue, la politique économique la plus sage consiste à tenir l'État à l'écart de l'économie, à réduire la fiscalité et la régulation au strict minimum, pour laisser les marchés suivre librement leur cours. Sans s'encombrer de considérations politiques, les investisseurs privés placeront l'argent dans les activités qui leur laissent espérer le plus de profit. La manière d'assurer le plus de croissance économique, profitable à tous, industriels aussi bien que travailleurs, est pour le gouvernement d'en faire le moins possible. Cette doctrine de la liberté du marché est aujourd'hui la variante la plus influente du credo capitaliste. Les partisans les plus enthousiastes de la liberté du marché critiquent les aventures militaires à l'étranger avec autant d'ardeur que les programmes de protection sociale à l'intérieur. Ils donnent au gouvernement le même conseil que les maîtres zen aux initiés, le non-agir. Sous sa forme extrême, cependant, croire à la liberté du marché, c'est être aussi naïf que croire au Père Noël. Il n'existe rien qui ressemble à un marché libre exempt de tout travers politique. La ressource économique qui compte le plus est la confiance en l'avenir, et cette ressource est constamment menacée par les voleurs et les charlatans. Les marchés en eux-mêmes n'offrent aucune protection contre la fraude, le vol ou la violence. C'est au système politique qu'il appartient d'instaurer la confiance par des lois sanctionnant les tricheries, mais aussi de mettre en place des forces de police, des tribunaux et des prisons pour faire respecter la loi. Quand les lois font mal leur travail et sont incapables de réguler convenablement les marchés, la confiance se perd, le crédit s'amenuise et l'économie s'enfonce dans la crise. Telle fut la leçon tirée de la bulle du Mississippi en 1719. Ceux qui l'auraient oublié ont eu une piqûre de rappel avec la bulle immobilière américaine de 2007 et la crise du crédit et la récession qui suivirent. L'enfer capitaliste. Il est une raison encore plus fondamentale qui explique pourquoi il est dangereux de lâcher entièrement la bride au marché. Un cordonnier, enseigné Adam Smith, utiliserait son excédent de profit pour embaucher des aides, ce qui signifie que la cupidité égoïste est bénéfique à tous puisque les profits excédentaires sont utilisés pour développer la production et recruter davantage d'employés. Mais que se passe-t-il si le cordonnier cupide accroît ses profits en payant moins à ses employés et en allongeant leur journée de travail? La réponse classique est que le marché protégerait les employés. Si notre cordonnier payait trop peu et exigeait trop, les meilleurs employés le laisseraient naturellement tomber et iraient travailler chez la concurrence. Le cordonnier tyrannique se retrouverait avec les plus mauvais ouvriers, voire sans plus aucune main-d'œuvre. Il lui faudrait s'amender ou abandonner le métier. Sa cupidité le forcerait à traiter correctement ses employés. Cela paraît imparable en théorie. En pratique, ça ne tient pas deux secondes. Sur un marché totalement libre, sans supervision des rois ou des prêtres, des capitalistes avaricieux peuvent asseoir des monopoles ou se liguer contre leur personnel. Si une seule société a le monopole de la fabrique des chaussures dans le pays, ou si tous les patrons conspirent pour baisser les salaires en même temps, les ouvriers perdent la possibilité de se protéger en changeant d'emploi. Pire encore, les patrons cupides pourraient amputer la liberté de mouvement en recourant à la servitude pour dette, voire à l'esclavage. À la fin du Moyen Âge, l'esclavage était presque inconnu dans l'Europe chrétienne. Au début des temps modernes, l'essor du capitalisme européen alla de pair avec l'essor du trafic d'esclaves transatlantique. Les responsables de cette calamité ne furent pas des rois tyranniques, ni des idéologues racistes, mais les forces débridées du marché. Quand les Européens conquirent l'Amérique, ils ouvrirent des mines d'or et d'argent et établirent des plantations de sucre, de tabac et de coton. Ces mines et plantations devinrent le pilier de la production et des exportations américaines. Les plantations de sucre étaient particulièrement importantes. Au Moyen Âge, le sucre était un luxe rare en Europe. On l'importait du Moyen-Orient à des prix prohibitifs et on l'utilisait avec parcimonie tel un ingrédient secret dans des friandises et des médicaments à base d'huile de serpent. Avec les grandes plantations de l'Amérique, des quantités toujours croissantes de sucre commencèrent à arriver en Europe. Son prix baissa et l'Europe devint très friande de sucreries. Les entrepreneurs satisfirent ce besoin en produisant d'énormes quantités. Gâteaux, chocolats, bonbons et boissons sucrées, tels que le cacao, le café ou le thé. La consommation annuelle de sucre de l'Anglais moyen passa pour ainsi dire de zéro, au début du XVIIe siècle, à environ 8 kilos à l'aube du XIXe siècle. Faire pousser des cannes et en extraire le sucre était toutefois une activité de forte main-d'œuvre. Peu de gens avaient envie de travailler de longues heures sur des plantations infestées par la malaria sous le soleil des tropiques. La main-d'œuvre, sous contrat, eut rendu le produit beaucoup trop onéreux pour une consommation de masse. Sensibles aux forces du marché et avides de profit et de croissance économique, les planteurs firent travailler des esclaves. Du XVIe au XIXe siècle, l'Amérique importa autour de 10 millions d'esclaves africains, dont près de 70% pour les plantations de canne à sucre. Les conditions de travail étaient abominables. La plupart avaient une vie brève et misérable. Des millions d'autres moururent au cours des guerres menées pour les capturer ou au cours du long voyage du cœur de l'Afrique aux côtes de l'Amérique. Tout cela pour que les Européens sucrent leur thé et mangent des bonbons et que les manias du sucre empochent d'énormes profits. Aucun État ou gouvernement ne contrôlait la traite négrière. Il s'agissait d'une entreprise purement économique, organisée et financée par le marché au gré des lois de l'offre et de la demande. Les compagnies de traite négrière vendaient des actions dans les bourses d'Amsterdam, Londres et Paris. Les bourgeois européens, en quête de bons placements, en acquéraient. Grâce à ces fonds, les compagnies achetaient des esclaves en Afrique et les acheminaient en Amérique pour les vendre aux plantations. Avec les gains ainsi obtenus, elles achetaient les produits des plantations, sucre, cacao, café, tabac, coton et rhum. De retour en Europe, elles vendaient le sucre et le coton à bon prix, puis repartaient en Afrique pour recommencer le circuit. Les actionnaires étaient ravis de cet arrangement. Tout au long du XVIIIe siècle, placer son argent dans la traite devait rapporter près de 6% par an. N'importe quel consultant moderne le reconnaîtrait. L'affaire était juteuse. Tel est bien le gros défaut du capitalisme de marché. Il ne saurait assurer que les profits sont acquis ou distribués de manière équitable. Bien au contraire, la soif de profit et de production empêche de voir tout ce qui pourrait s'opposer à elle. Quand la croissance devient un bien suprême, sans aucune considération éthique pour la freiner, elle risque fort de mener à la catastrophe. Certaines religions, comme le christianisme ou le nazisme, brûlaient d'une haine qui leur a fait tuer des millions de gens. Le capitalisme en a tué aussi des millions par indifférence et cupidité. La traite des nègres n'est pas née d'une haine raciste envers les Africains. Ceux qui achetaient les actions, les courtiers qui les vendaient et les gérants des compagnies négrières pensaient rarement aux Africains, tout comme les patrons des plantations. Beaucoup vivaient loin d'elles et n'exigeaient qu'une chose, un compte bien tenu des profits et des pertes. Il importe de ne pas perdre de vue que la traite négrière n'a pas été une aberration unique dans une histoire par ailleurs immaculée. La grande famine du Bengale, évoquée dans le chapitre précédent, trouve son origine dans une dynamique semblable. La British East India Company se souciait plus de ses profits que de la vie de 10 millions de Bengalis. Les campagnes militaires de la VOC en Indonésie furent financées par d'honnêtes bourgeois hollandais qui aimaient leurs enfants, faisaient la charité, goûtaient la bonne musique et les beaux-arts, mais n'avaient cure de la souffrance des habitants de Java, Sumatra ou Malacca. D'innombrables autres crimes et méfaits accompagnèrent l'essor de l'économie moderne dans d'autres parties de la planète. Le XIXe siècle n'apporta aucune amélioration à l'éthique du capitalisme. La révolution industrielle qui balaya l'Europe enrichit les banquiers et détenteurs de capitaux, mais condamna des millions de travailleurs à une misère noire. Dans les colonies européennes, la situation fut pire encore. En 1876, le roi Léopold II de Belgique créa une organisation humanitaire non gouvernementale dont le but déclaré était d'explorer l'Afrique centrale et de combattre le trafic d'esclaves le long du fleuve Congo. Elle avait aussi pour mission d'améliorer les conditions de vie des habitants de la région en construisant des routes, des écoles et des hôpitaux. En 1885, les puissances européennes acceptèrent de donner à cette organisation le contrôle de 2,3 millions de kilomètres carrés dans le bassin du Congo. Ce territoire, 75 fois plus grand que la Belgique, allait être désormais connu sous le nom d'État libre du Congo. Nul ne demanda leur avis aux 20 ou 30 millions d'habitants de ce territoire. Très vite, l'organisation humanitaire se transforma en entreprise commerciale, dont l'objectif véritable était la croissance et le profit. Oubliez les écoles et les hôpitaux. Le bassin du Congo se couvrit plutôt de mines et de plantations, le plus souvent dirigées par des fonctionnaires belges qui exploitaient implacablement la population locale. Particulièrement notoire était l'industrie du caoutchouc. Ce dernier devint rapidement un produit industriel de base et son exportation la principale source de revenus du Congo. Les villageois africains chargés de récolter le caoutchouc se virent imposer des quotas toujours plus hauts. Ceux qui n'y parvenaient pas étaient brutalement châtiés pour leur paresse. On leur coupait les bras, par exemple, quand on ne massacrait pas des villages entiers. Entre 1885 et 1908, d'après les estimations les plus modérées, la poursuite de la croissance et des profits coûta la vie à 6 millions de personnes, au moins 20% de la population du Congo. Certaines estimations vont jusqu'à 10 millions de morts. Après 1908, et surtout après 1945, la cupidité capitaliste fut légèrement bridée, notamment du fait de la peur du communisme. Les iniquités n'en continuèrent pas moins de sévir. Le gâteau économique de 2014 est bien plus grand que celui de 1500, mais sa distribution est si inégale que beaucoup de paysans africains et de travailleurs indonésiens rentrent chez eux après une journée de labeur avec moins à manger que leurs ancêtres voici 500 ans. De même que la révolution agricole, la croissance de l'économie moderne pourrait bien apparaître comme une colossale imposture. L'espèce humaine et l'économie mondiale peuvent poursuivre leur croissance. Cela n'empêche pas que beaucoup vivent dans la faim et le besoin. Le capitalisme a deux réponses à cette critique. Premièrement, il a créé un monde que personne ne peut diriger si ce n'est un capitaliste. La seule tentative sérieuse pour le gérer autrement, le communisme, a été tellement pire à tous égards que personne n'a le cran de recommencer. En 8500 avant notre ère, on pouvait verser des larmes amères sur la révolution agricole, mais il était trop tard pour renoncer à l'agriculture. De même, le capitalisme n'est pas forcément à notre goût, mais nous ne pouvons pas nous en passer. La seconde réponse est qu'il nous suffit de patienter. Le paradis, la promesse capitaliste, est au coin de la rue. Certes, des erreurs ont été commises, telles la traite négrière et l'exploitation de la classe laborieuse européenne, mais nous en avons tiré la leçon. Il suffit d'attendre encore un peu, le gâteau va augmenter et tout le monde aura une tranche plus épaisse. Le partage des dépouilles ne sera jamais équitable, mais il y aura assez pour satisfaire chacun, hommes, femmes et enfants, même au Congo. Il y a bel et bien quelques signes positifs, du moins si nous recourons à des critères purement matériels comme l'espérance de vie, la mortalité infantile et la consommation de calories, le niveau de vie de l'homme moyen en 2013 est sensiblement plus haut qu'il l'était en 1913, malgré une croissance démographique exponentielle. Le gâteau économique peut-il cependant croître éternellement ? Tout gâteau nécessite des matières premières et de l'énergie. Des prophètes de malheur nous préviennent que tôt ou tard, Homo sapiens épuisera les matières premières et l'énergie de la planète Terre. Et que se passera-t-il ensuite ?